Bonjour à toutes, bonjour à toutes. Bienvenue dans Culture Monde, votre magazine que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi. Une émission préparée ce matin par Margot Le Ridon, Monsieur Hélène, François Berti, Bourdon, Rosalie Suc, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Élise Le. Deuxième temps de notre série consacrée aux dirigeants asiatiques. Après avoir évoqué hier le président chinois Xi Jinping et avant de nous intéresser demain au premier ministre indien Narendra Modi et puis jeudi au leader nord-coréen Kim Jong-un, tournons-nous aujourd'hui vers le Japon de Shinzo Abe. Shinzo Abe, le retour du nationalisme nippon, c'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
Avec vous tous, je veux travailler à la réforme de la constitution de notre pays. La bataille électorale est finie. Construisons un nouveau Japon. En joignant les mains et en nous unissant.
Élu Premier ministre en 2012, après un bref premier mandat en 2006-2007 et une longue traversée du désert, Shinzo Abe a été réélu en septembre 2018, chef de son parti libéral-démocrate, ce qui a entraîné sa reconduction à la tête du gouvernement où il pourrait rester jusqu'en 2021. Petit-fils d'un ancien dirigeant accusé de crimes de guerre, ce nationaliste assumé est parvenu à un équilibre entre la poursuite de son agenda idéologique et un certain progressisme économique. D'un côté, il tente de réformer la constitution afin de pouvoir remilitariser le pays et de l'autre, il promet de relancer l'économie grâce à ces fameuses Abenomics, doctrine dans laquelle il inclut un volet consacré à l'emploi des femmes, les Womanomics, s'offrant au passage un visage plus ouvert. On reviendra sur ce point en particulier. Cet exercice de compromis lui permet de maintenir son parti aux affaires, mais aussi de se maintenir lui-même à la tête du parti. Mais Shinzo Abe a également su s'appuyer sur les nombreuses réformes institutionnelles menées à la fin des années 90 pour asseoir son pouvoir, à la fois sur l'administration, mais aussi sur sa propre famille politique. En quoi la dynastie politique dont Shinzo Abe est issu a-t-elle déterminé son parcours? Quelle est sa conception du passé militariste et colonialiste du Japon? De quoi est fait le nationalisme de Abe? Et comment son idéologie nationaliste s'articule-t-elle avec les autres aspects de son action, et notamment économique? Voilà un certain nombre de questions sur lesquelles on va se pencher ce matin. Pour ce faire, on a invité Arnaud Griveaux. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes maître de conférence à l'université Diderot. Vous êtes un spécialiste de la politique japonaise contemporaine qu'on va aborder très largement aujourd'hui. Il y a eu AB1, 2006-2002. Mmh. Il y a eu AB2, il y a eu AB3, il y a AB4. En cumulant, Abe est resté chef de l'exécutif pendant presque 8 ans. Et il est parti pour rester encore au moins 2 ans. Lorsque son parti a gagné le scrutin en septembre 2018, on s'est beaucoup interrogé sur la longévité absolument record de Shinzo Abe, sans équivalent depuis la mise en place du système de monarchie constitutionnelle en 1885. Comment expliquer cette extraordinaire longévité? On va évidemment détailler, il y a beaucoup de choses, on a quasiment une heure pour le faire, mais première intention.
Je dirais qu'il y a trois principaux éléments, dont un que vous avez mentionné dans votre introduction. Le premier élément, je dirais, c'est les réformes institutionnelles introduites à la fin des années 90, qui ont véritablement renforcé le pouvoir des premiers ministres japonais. Tous les premiers ministres japonais qui ont suivi n'ont pas été aussi habiles dans l'utilisation des outils institutionnels que ces réformes procuraient. Lui, il est bien entouré, disons, il a une mainmise sur les hauts fonctionnaires lui permettent justement d'introduire tout un ensemble de réformes, alors que jusqu'ici, c'est vrai que parfois des hauts fonctionnaires ont pu freiner des cas de fer pour l'introduction de certaines réformes. Et aujourd'hui, Abe a toutes les armes en main, je dirais. Le deuxième élément, c'est une communication politique assez efficace. Vous avez parlé des slogans Womanomics, Abenomics. Cette communication politique bien plus dynamique et rajeunie, je dirais, que celle qu'il avait lors de son premier passage infructueux à la tête du gouvernement en 2006-2007. Il se montre effectivement, comme vous l'avez dit, pragmatique, réformateur sur un ensemble de questions sociétales, tout en sachant pertinemment que son agenda idéologique est quand même principalement conservateur. Et puis le dernier élément, c'est le paysage politique en décomposition totale. Enfin, disons l'opposition, du moins, est en décomposition totale. Et la marge de manœuvre qu'il a sur son propre parti est extraordinaire, je dirais, depuis au moins depuis la fin du ce qu'on appelle le système de 1955, la fin de la longue période de domination sans partage du Parti libéral-démocrate.
Si on reprend les trois éléments que vous avez évoqués, la question de l'administration, la question de la communication politique, et la dernière, c'est la décomposition du paysage politique. Tout cela, c'est... il y a au moins deux éléments qui sont structurels et seulement le troisième, la communication politique, qui l'est peut-être moins. Ouais. J'évoquais tout à l'heure dans mon introduction le fait que Shinzo Abe a eu à un moment, il a été quasiment un an au pouvoir en 2006-2007 et puis il l'a perdu ce pouvoir. Enfin, il l'a perdu, il a dû démissionner. Comment se fait-il que précisément il n'ait pas su à ce moment-là garder le pouvoir ? Est-ce que précisément c'est parce que sa communication politique à ce moment-là n'était pas encore suffisamment bonne, qu'il n'avait pas encore les bonnes clés qui lui permettaient de rester au pouvoir ? Parce qu'a priori, sur la question de l'administration et la question du paysage politique, on était à peu près dans le même contexte.
Alors pour l'administration, effectivement, pour le paysage politique, la situation était différente dans la mesure où il arrivait après donc les 5 ans de Koizumi Junichiro, donc de 2001 à 2006, qui était un premier ministre très populaire et qui a été le premier, disons, premier ministre vraiment fort après les fameuses réformes qu'on a évoquées. Donc il arrive après un premier ministre très populaire, il est rigide alors que Koizumi était bien plus dynamique, avait justement une communication politique bien plus je dirais va-t-en-guerre contre son propre parti, mais en même temps oui, disons que ça veut rien dire, mais il faisait plus jeune que Abe, qui lui était assez guindé. Enfin, il suffit de regarder des posters, par exemple, d'élections, les posters de campagne électorale. On voit qu'il est pas très très à l'aise.
Sa façon de parler, l'image, c'est évidemment extrêmement important en politique. Mais alors, est-ce que précisément quand il revient au pouvoir après sa longue traversée du désert, quand il revient au pouvoir en 2012, est-ce qu'il a tiré les leçons précisément de ses défaillances?
En tout cas, son entourage les a prises, les leçons. Faut quand même se dire que la première fois où il est passé au pouvoir, on l'appelait le premier ministre à côté de la plaque, parce qu'il mettait en avant son agenda idéologique sans arrêt, la constitution, la révision de la constitution. Il était obsédé par ça. C'est pas qu'il l'est moins obsédé aujourd'hui, mais c'est que les Japonais attendent des réformes économiques, ou du moins une croissance économique. C'est l'item qui ressort à chaque fois lors des sondages.
Et pardon, pourtant, quand il revient au pouvoir en 2012, son slogan de campagne, c'est « Remettre sur pied le Japon, Nippon o Torimodozu ». Et ce qui met beaucoup en avant, c'est les questions sécuritaires, c'est les questions politiques étrangères. Donc en réalité, pas des questions qui sont forcément des questions du quotidien pour les Japonais.
Non, tout à fait. Mais c'est qu'il arrive à le contrebalancer. Il n'abandonne pas ce volet-là, mais il le contrebalance avec une communication politique très orientée vers les Abenomics, par exemple. Et donc c'est cet équilibre-là qui fait qu'il n'est plus à côté de la plaque. Et en 2012, il arrive justement après l'échec du Parti démocrate du Japon, donc le parti de centre-gauche qui avait créé l'alternance entre 2009 et 2012. Donc il y a une grosse déception finalement vis-à-vis de l'opposition, alors qu'en 2006-2007, au contraire, on sent que ce parti-là va créer l'alternance et il va créer d'ailleurs un immense espoir à la hauteur de la déception qui va s'en suivre en fait.
Alors on va revenir ensemble, Arnaud Griveaux, sur le parcours et puis les origines aussi, parce qu'il y a évidemment derrière tout un poids de l'histoire familiale sur les épaules de Shinzo Abe qu'il faut comprendre pour comprendre son nationalisme aujourd'hui. Mais pour revenir sur la question du parti, justement, dans le système japonais, c'est le parti qui remporte l'élection législative, dont le chef est chargé de former le gouvernement. Voilà comment ça fonctionne. Et donc, si Abe est Premier ministre, c'est aussi parce que son parti, en l'occurrence le PLD, le Jimminto, le Parti libéral-démocrate, le soutient. Comment expliquer qu'il l'ait soutenu aussi longtemps? Il n'y a pas eu de velléité interne destinée à l'écarter et prendre sa place?
Si, tout à fait. En fait, depuis 7 ans, la première source, disons, d'inquiétude, je dirais, la plus grande menace à laquelle il a dû faire face, était probablement une menace interne qu'il a réussi à museler de façon assez magistrale. Bon, les réformes institutionnelles ont certes aidé. les 5 ans de Koizumi, disons, où le parti justement a été détruit en grande partie, en tout cas les forces justement résistantes à ces réformes structurelles ont été très largement mises à mal. Le passage du Parti démocrate du Japon au pouvoir et donc l'alternance a fait passer le PLD pour la première véritable fois, on va dire, dans l'opposition. Donc le parti qui en est ressorti en 2012 était relativement faible par rapport vis-à-vis d'un premier ministre et d'un chef de parti qui voudrait s'imposer. Donc on a vu plusieurs personnes essayer de monter, essayer de le faire tomber, notamment lors de scandales. Il y a eu quelques scandales qui ont mêlé de plus ou moins loin le Premier ministre, mais à chaque fois il a réussi à maintenir sa cote de popularité au-dessus d'une limite qu'on considère comme étant un peu la ligne de vie, quoi, 20% disons de soutien. Il a toujours été au-dessus, sauf erreur de ma part, mais je pense quand même pas. Et ça fait qu'il a réussi à finalement dans ces mini tempêtes à se maintenir.
Il est toujours aussi puissant aujourd'hui, c'est vraiment l'homme du PLD. Il n'y a pas de figure qui pourrait prétendre prendre sa place.
Bah, disons que on sait qu'il va partir en 2021 puisque il a réussi justement à changer le règlement intérieur du parti, ce qui est déjà signe justement de sa maîtrise du parti, parce que tout le monde n'était quand même pas d'accord ça. Il a réussi à faire en sorte qu'il puisse avoir 3 mandats successifs au lieu de 2, donc au lieu d'avoir 6 ans il aura eu 9 ans,
voilà. Donc 2021 et a priori après 2021 il partira. Alors, essayons de faire peut-être un petit portrait, de voir un peu les origines de Shinzo Abe. Le grand-père paternel de Shinzo Abe, Kan Abe, était député indépendant de 1937 à 1946. Son grand-père maternel est un ancien premier ministre, Nobusuke Kishi, ainsi que son oncle Esaku Sato, resté au pouvoir de 64 à 72. C'est peut-être lui d'ailleurs qui détenait le record de longévité, qui était d'ailleurs prix Nobel de la paix en 1974. Son père, cadre du Parti libéral-démocrate, ministre des Affaires étrangères de 82 à 86. Bref, on voit bien que là, Shinzo Abe est issu d'une longue lignée de responsables politiques. On est responsable politique de père en fils.
Oui, en tout cas, c'est un gros problème au Japon, ce qu'on appelle c'est une sorte de dynastie politique, de la politique par héritage, et donc.
Mais il n'est pas une exception en la matière.
Absolument pas. Non. Disons que c'est le cas peut-être le plus représentatif et le plus impressionnant, parce qu'il y a quand même, 3 premiers ministres dans une même famille, ça c'est quand même.
C'est rare.
C'est quand même assez rare. Mais, deux en tout cas, oui, son vice-premier ministre, par exemple, vient aussi d'une dynastie. Le premier ministre du Parti démocrate du Japon en 2009 son grand-père était également premier ministre au sortir de la Seconde Guerre mondiale, donc banal malheureusement.
Alors peut-être l'un des plus notables de ces responsables justement, c'est le grand-père maternel, Nobusuke Kishi, premier ministre donc de 57 à 1960. À l'issue de la Seconde Guerre mondiale, Nobusuke Kishi est accusé de crimes de guerre, il est emprisonné pendant 3 ans, finalement il est libéré. Vous nous rappelez ce qu'on reproche à Nobusuke Kishi et comment cette figure va façonner le parcours de Shinzo Abe?
Alors c'est Nobusuke, mais
Nobusuke, pardon.
Nobusuke Kishi, oui. Disons qu'il était, il a été donc haut fonctionnaire durant la période d'avant-guerre. Il a donc homme politique fort déjà donc avant et pendant la guerre. Il a eu un certain rôle également en Mandchourie, dont on sait quand même qu'il y a eu un certain nombre d'exactions japonaises pendant la guerre. Donc effectivement, en fait, Kishi Nobusuke est au lendemain de la Seconde Guerre mondiale est sur le point finalement d'être condamné, je ne sais pas, mais du moins il va être jugé dans la deuxième vague, on va dire, du tribunal de Tokyo, et c'est à peu près dans un moment qu'on appelle le retour en arrière au Japon, où les Américains, voyant que la Chine devient communiste, que des forces communistes commencent à s'infiltrer, disons, en Corée, c'est à ce moment-là que les Américains, leur but principal qui était de démilitariser le Japon, de le démocratiser, se transforme en, faisons du Japon une digue, c'est la technique de l'endiguement, faisons du Japon une digue contre le communisme communisme en Asie. Et là, sur qui s'appuyer? Est-ce qu'on va s'appuyer sur des socialistes? Sûrement pas. On va plutôt s'appuyer sur des conservateurs. Donc, c'est comme ça qu'en fait, Kishino Busuke est réhabilité finalement assez rapidement quand même après la Seconde Guerre mondiale. Donc, c'est quand même le fait des Américains en réalité.
Réhabilité, mais très critiqué, et y compris à l'intérieur de la société nippone. Voilà ce qu'écrit Shinzo Abe dans son livre intitulé « Vers un magnifique pays » à propos de son grand-père. « Certains avaient l'habitude de montrer du doigt mon grand-père comme un suspect de crime de guerre de classe A, et je ressentais une profonde répulsion. À cause de cette expérience, je pourrais bien être devenu attaché émotionnellement au conservatisme. Au contraire. »
Oui.
Voilà ce qu'il dit.
Ah oui, il y a un cas clinique un peu. Non, c'est sûr, c'est, mais bon, toujours, c'est sûr qu'il a été effectivement très, très critiqué par des forces de gauche qui ont été assez dynamiques, en fait, au Japon après la Seconde Guerre mondiale jusque dans les années 60, où justement, c'est le point d'orgue un peu du mandat de Kishi, c'est la resignature du traité d'alliance entre les États-Unis et le Japon qui crée une sorte de soumission malgré tout quand même. Il y a eu des manifestations absolument énormes au Japon. Il y a eu une étudiante qui a été tuée par la police. Donc il y a quand même eu une activité comme ça assez importante, une effervescence au Japon. Et ces forces-là étaient contre effectivement Kishino Busuke et ce qu'il représentait. Mais toujours est-il qu'il était Premier ministre. Et donc bon, le consensus n'était pas total, bien entendu.
Alors, essayons de voir, Arnaud Griveaux, comment Shinzo Abe porte cette mémoire de la guerre. Donc, il arrive au pouvoir, il revient au pouvoir en 2012, printemps 2013, alors que son parti a remporté les élections et qu'il est donc redevenu le chef du gouvernement. Il y a un certain nombre de parlementaires de son parti qui se rendent au sanctuaire de Yasukuni, où sont honorées les mémoires des soldats morts pour la patrie et dont certains sont des criminels de guerre. Alors, dans un premier temps, Shinzo Abe n'y va pas personnellement. Il envoie son ministre des Affaires étrangères, il fait quand même une offrande, en l'occurrence un arbre sacré, et puis surtout, à ce moment-là, il va prononcer un discours dans lequel il appelle notamment les générations futures à rompre avec cette idée qu'il faut toujours s'excuser. Écoutez.
Au Japon, plus de 80% de la population est née après la Deuxième Guerre mondiale. Nous ne devons pas laisser nos enfants, petits-enfants et les générations futures qui n'ont rien à voir avec la guerre, à devoir continuer de s'excuser.
Voilà donc ce qu'il dit à propos des générations futures. A priori, Arnaud Griveaux, pas de négationnisme dans cette déclaration, pas de révisionnisme dans cette déclaration, mais après, il faut aller creuser peut-être un peu plus. Regardez, je parlais tout à l'heure du fameux sanctuaire Yasukuni, il se trouve que il va y faire finalement un déplacement, je crois que c'est en décembre 2013. Comment est-ce qu'on peut comprendre la manière, Arnaud Griveaux, dont Shinzo Abe, peut-être assez nouvelle quand on regarde l'histoire du Japon, en tout cas depuis le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la manière de lire ce passé militariste du pays? Est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre de la rupture derrière cette mémoire de la guerre portée par Abe?
Je dirais pas qu'il y a une rupture parce que le discours a existé, disons, en continu après la Seconde Guerre mondiale. C'est juste que ce discours devient très visible puisqu'il est porté par un premier ministre qui est, on va dire, tout puissant dans son parti.
Mais jamais porté par un premier ministre de cette manière-là jusqu'ici.
Peut-être pas à ce point-là, mais bon, on a eu Nakasone quand même dans les années 80 qui était effectivement très conservateur lui aussi sur cet aspect. Là. Koizumi, finalement, malgré son aspect un peu plus engageant, faisait aussi des visites lui-même au sanctuaire.
Donc, vous nous rappelez pourquoi ce sanctuaire pose problème?
Le sanctuaire, il pose problème en fait depuis, vraiment, je dirais, depuis 1974, où les autorités du sanctuaire, donc c'est pas l'État, mais les autorités du sanctuaire ont décidé d'incorporer dans les morts qui étaient célébrées, tous les soldats japonais morts pendant la guerre, d'incorporer ces fameux criminels de guerre qui, eux, avaient été traduits pendant les procès de Tokyo. Et donc,
les criminels de classe A.
C'est ça, voilà. Et donc, une visite au sanctuaire peut... c'est très ambivalent. On peut très bien dire qu'on vient se reposer comme si on se reposait sur la tombe du soldat inconnu. Mais en même temps, c'est comme si dans la tombe du soldat inconnu, il y avait un peu de pétain. Et là, du coup, c'est là que c'est problématique. Alors,
Et puis, ça dépend aussi à quel moment vous y allez. Est-ce que vous y allez,
c'est ça.
Par exemple, au 15 août, au moment de la capitulation du Japon, c'est pas pareil.
Ça dépend quand on y va, ça dépend les discours qu'on tient par ailleurs, ouais. Et on sait qu'AB, bon...
Alors, les discours et puis aussi les liens avec un certain nombre de groupes, disons, nationalistes, de mouvements ouvertement pour le coup révisionnistes, je pense en particulier à Nippon Kaigi. Mmh. Il faut nous expliquer ce qu'est Nippon Kaigi et les liens exacts de AB avec ce mouvement d'extrême droite, clairement.
Oui, oui, ouais. Oui, oui.
Révisionniste.
Oui, ce qu'on appelle donc Nippon Kaigi, c'est la conférence du Japon. C'est un groupe, disons, de lobby ultranationaliste assez important qui est, comment dire, décrit comme étant un mouvement grassroots, donc assez implanté quand même, avec beaucoup de branches locales. Donc c'est pas quelque chose, je dirais, qui vient d'en haut. Il y a quand même une base idéologique. Et qui se transforme en base électorale, en fait, hein, bien entendu, qu'il va tenter de séduire, enfin qu'il n'a pas beaucoup de mal à la séduire d'ailleurs, et donc ces groupes là qui sont pour une modification, donc voilà, de l'éducation, remettre la famille au centre du pays, enfin comme unité de base du pays, en finir un peu avec la séparation entre je dirais l'Église, mais le Shinto et l'État, de la constitution de 46. Il y a tout cet agenda idéologique là je dirais porté par AB, mais là où AB a l'intelligence de l'intelligence, je dirais, c'est qu'il arrive à mettre un peu ça en sourdine malgré tout, et à ne pas paraître non plus comme un idéologue qui ne fait pas preuve de pragmatisme. Donc c'est cette capacité là un peu à jouer avec ce curseur qui fait qu'il arrive à se maintenir pendant 7 ans, en fait. Mais c'est un groupe qui peut être assez inquiétant. Il y a un chercheur, Thierry Gutmann, qui travaille sur cette question de la conférence du Japon. Il a plein de ministres qui faisaient partie de la conférence du Japon, ont fait partie, qui font partie d'un groupe de parlementaires pour... Je me rappelle plus exactement comment il s'appelle, mais c'est pour...
La conférence du Japon, c'est Nippon Kaigi.
C'est ça. C'est pas un groupe politique, mais c'est un groupe qui va soutenir... Alors, il soutient pas le PLD en soi, parce que dans le PLD, il y a des courants un peu plus progressistes, si je puis dire. Mais il se trouve que là, le courant qui a gagné depuis 7 ans, c'est le courant nationaliste, conservateur. Hein.
Vous parliez de la Constitution, Arnaud Griveaux. Quand Shinzo Abe est arrivé au pouvoir, il a dit son désir, son ambition de modifier cette Constitution, dont l'article 9, rappelons-le, stipule que le Japon renonce à jamais à la guerre et à l'usage de la force comme moyen de règlement des conflits internationaux, ce qui explique que parfois on appelle cette Constitution la Constitution de la paix. Alors ça a été un peu difficile dans un premier temps face au tollé provoqué. Il a un peu oublié cette idée de réformer la Constitution et il semble que ça reviennent là à nouveau sur le devant de la scène. Est-ce que effectivement Abe a à nouveau comme objectif ultime, j'allais dire, de réformer cette constitution, et est-ce qu'il peut y arriver?
L'objectif ultime, ça c'est sûr, c'est vraiment, ce sera le point d'orgue de son mandat.
Mais il y avait un peu renoncé.
Ben c'est son pragmatisme qui lui a fait renoncer. Parce que il a vu que c'était politiquement difficile de le mettre en place au vu des rapports de force à la Diète, par exemple, donc au Parlement. Donc il ne s'entête pas, disons, s'il sait que ça ne va pas marcher. Mais là, pour le coup, c'est vrai que tout un ensemble de victoires électorales,
il est si fort qu'il peut.
Ben c'est que là maintenant, oui. Ouais. Disons que le parti de coalition, donc le Kōmeitō, dont il a malgré tout quand même besoin à la chambre haute, à la chambre basse un peu moins. Mais disons que pour réviser la constitution, il faut avoir les 2/3 de la majorité dans chaque chambre. Donc c'est ce qu'on appelle une constitution relativement rigide. C'est assez difficile de réviser la constitution, les conditions de révision sont difficiles, donc il faut avoir les 2/3, et une fois qu'on a les 2/3, la chose est soumise ensuite au référendum au peuple.
Alors attendez, on va voir si le peuple il serait prêt, mais d'abord, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut en finir avec le pacifisme hérité de la Seconde Guerre mondiale?
Oui. C'est. Disons qu'il va pas forcément le présenter comme ça. Lui parle d'un pacifisme proactif.
Qu'est-ce que ça veut dire?
C'est-à-dire que si on veut la paix, eh ben il faut s'en donner les moyens. Et pour s'en donner les moyens, c'est parfois des moyens militaires. Le contexte régional a clairement changé depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il a également beaucoup changé depuis la fin de la Guerre froide. Le Japon a compris qu'il ne pouvait pas non plus compter ad vitam aeternam sur les États-Unis. Bon, notamment avec Trump là qui quand même semble donner raison à cette idée-là soutenue par Abe, et donc le Japon doit se doter finalement d'une capacité à assurer la paix, non pas seulement chez lui et dans sa région proche, mais également partout dans le monde, hein. C'est ce qui est marqué dans le préambule de la Constitution. Donc on peut très bien soutenir l'idée que si on veut promouvoir la paix partout dans le monde, eh bien il faut aussi participer.
Avoir une armée de projection?
De projection de puissance, ils vont pas le dire comme ça, mais une armée qui pourra participer à toutes les opérations, par exemple, de maintien de la paix de l'ONU. Là, à l'heure actuelle, les réformes de 2015 ont changé un peu la donne.
C'était quoi ces réformes de 2015?
Ces réformes de 2015, en fait, c'est au passage de ce qu'on appelle de l'autodéfense individuelle à l'autodéfense collective. L'autodéfense individuelle, c'est on attaque le Japon ou on attaque un navire qui se trouve dans les eaux territoriales, par exemple japonaises, et le Japon peut riposter. Ça c'était acté depuis 54, notamment la création des forces d'autodéfense, en 2015, ce que Abe a voulu faire passer, disons, au mépris de l'article 9, je dirais quand même, parce que c'est une interprétation qui est quand même très flexible, hein, de cet article-là, introduire l'autodéfense collective et permettre au Japon de défendre ses alliés si ses alliés se font attaquer, de défendre des populations civiles, par exemple, qui seraient sous sa protection dans des opérations de casque bleu, par exemple. Donc jusqu'ici, le Japon participait à des opérations de casque bleu, mais c'était protéger des bureaux de vote, des choses comme ça. Donc c'était beaucoup de logistique. Là, le Japon veut être plus engagé dans la défense de la paix mondiale. Du moins, c'est le discours.
Alors, est-ce qu'il peut y arriver? Il y a la question de la majorité des deux tiers. Faisons l'hypothèse qu'effectivement, il a cette majorité. A priori, il devrait pouvoir l'avoir. Ensuite, il faut passer par la case référendum. Est-ce que l'opinion nippone est prête à cette idée de réformer cette constitution, qui est quand même une constitution très rigide, à laquelle on est quand même très attaché, qui dit beaucoup évidemment de ce caractère pacifiste auquel sont quand même très attachés les Japonais aujourd'hui. C'est possible?
Je pense que c'est possible. Je pense que là, l'opinion japonaise est assez partagée, si je puis dire. Comme vous le dites, elle partage énormément ces valeurs de pacifisme, mais on voit souvent, dans une seconde question, on leur demande, oui, mais la Corée du Nord, les missiles, ça fait quand même peur, la Chine, elle semble projeter sa puissance dans tout un ensemble de territoires, dans la mer de Chine méridionale, ce genre de choses. Et quand on leur demande, est-ce qu'il faudrait pas adapter un peu ce pacifisme, souvent les Japonais répondent oui, c'est vrai qu'on peut faire aussi on peut faire des adaptations et rendre la chose un peu moins rigide qu'elle ne l'était jusqu'ici, du moins dans la Constitution. Mais dans les faits, c'est vrai que les lois qui sont dans la hiérarchie des normes, quand même, se trouve dans une position inférieure à la Constitution. Ces lois, finalement, ont, par le bas, réussi à modifier l'interprétation de l'article 9 de façon si importante que, en 54, on crée des forces d'autodéfense. C'est quand même le 6e ou 7e budget militaire au monde. Donc, pour un pays qui n'a pas d'armée, c'est quand même étonnant aussi. Donc, ça a des conséquences. Le Japon va pas avoir de porte-avions, par exemple, donc des moyens de projection de puissance. Mais, toujours est-il que le Japon est quand même une puissance militaire qui est non négligeable.
On est avec vous, Arnaud Griveaux, dans cette série consacrée aux nouveaux hommes forts en Asie. Aujourd'hui, on parle de Shinzo Abe et de ce retour du nationalisme nippon. On va parler de la politique économique de Shinzo Abe.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Et comme on le disait, quelques temps après le lancement des Abenomics, ces mesures entreprises par Shinzo Abe en 2012 pour remettre l'économie nippone sur pied après la crise de 2008, le dirigeant leur adjoint un volet consacré à l'emploi des femmes. Il appelle ça les Womanomics.
Japan must become a place.
Le Japon doit devenir un lieu où les femmes brilleront dans la société japonaise.
By 2020, we will make
D'ici 2020, nous ferons en sorte que 30% des postes à responsabilité soient occupés par des femmes.
by women.
Voilà ce que disait Shinzo Abe au Forum économique de Davos en 2014. Alors, pourquoi cette préoccupation soudaine de la part d'un dirigeant traditionnaliste, conservateur? En quoi ces womenomics sont-elles réellement consisté? Quels ont été leurs effets aussi? Bonjour Christine Lévy.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes maître de conférence à l'université Bordeaux-Montaigne. Qu'est-ce qui pousse à ce moment-là Shinzo Abe à prendre ces réformes économiques à destination des femmes en particulier? Est-ce que ce sont des motifs purement économiques? Est-ce que c'est dans un souci d'émancipation des femmes vis-à-vis d'un patriarcat très fort? Christine Lévy.
Alors, oui, la raison est économique surtout, parce qu'il s'inspire d'un rapport qui a été fait par l'institution Goldman Sachs et où une chercheuse, une analyste d'origine américaine mais d'origine japonaise, Kati Matsui, mettait en avant le fait que si le Japon ne recourait pas davantage à la main-d'œuvre féminine, il ne pourrait pas du tout tenir son rang du fait surtout du vieillissement de la population. Ouais. Donc il y a un grand souci par rapport à la question du vieillissement de la population, la main-d'œuvre, et comme le Japon reste très très fermé par rapport à l'immigration, la ressource économique disponible, c'était les femmes. Donc il y a cette idée. Il faut d'ailleurs dire que les femmes sont assez nombreuses à travailler au Japon. Seulement elles sont dans des emplois à mi-temps, et puis elles sont très, elles s'arrêtent à la première naissance de l'enfant pour beaucoup. Et elles reprennent toujours à des bas salaires ou dans des postes très très mal payés.
Mmh. Alors oui, effectivement, quand voilà. On regarde les chiffres, j'ai découvert ça hier en préparant notre entretien, seulement 38% des femmes retournent au travail après leur premier enfant. Qu'est-ce qui fait que justement elles ont autant de mal à retourner au travail? Et est-ce que c'est pas aussi, d'une certaine manière, une volonté des responsables politiques qui finalement chercheraient peut-être à les confiner à l'espace du foyer, avec peut-être par ailleurs des raisons qu'on peut discuter? Vous parliez tout à l'heure de la question de la natalité, qui est un vrai problème au Japon, effectivement. Oui. Bon, comment comprendre les choses?
Alors, je ne pense pas qu'on puisse dire que c'est la volonté des politiques. Mmh. C'est plutôt un modèle qui persiste. C'est-à-dire que pendant la haute croissance, en effet, c'était la volonté des politiques. C'était avoir la femme au foyer qui soutenait le mari, disponible entièrement pour l'entreprise. Donc, c'était un modèle qui fonctionnait pendant la période de la haute croissance, jusqu'au milieu des années 70. Et puis, la société japonaise a changé. L'emploi a changé. La précarité a beaucoup augmenté. Et donc, les familles sont beaucoup moins nombreuses à pouvoir vivre sur un seul salaire. Mmh, mmh. Mais les entreprises ont continué à fonctionner comme avant, parce que l'encadrement est vraiment masculin, à 95%, et ils ont pris leurs habitudes, en particulier les grandes entreprises, ils ont leurs habitudes. Alors, le grand problème par rapport aux femmes qui ont des enfants, c'est comment concilier la vie familiale et le travail, le problème des heures supplémentaires.
Oui, enfin, on peut peut-être aussi les y aider, Christine Lévy. Par exemple, il y a un vrai problème au Japon, c'est la question de la garde tout simplement des enfants. Il y a très peu de garderies, il y a très peu de crèches. Oui. Là, on peut faire des gestes. Et par ailleurs, Shinzo Abe avait fait des annonces très importantes. Il avait dit, alors je ne sais plus en quelle année, mais à ce moment-là, en 2013-2014, qu'il allait créer 400 000 places en crèche d'ici 2018. Est-ce que, par exemple, sur ce point-là, il a tenu parole?
Alors non, il n'a pas tenu parole, mais on ne peut pas dire qu'il n'y a rien eu. Il y a eu des mouvements d'ailleurs de protestation très fortes des femmes en 2016 qui se sont beaucoup mobilisées sur cette question et qui ont eu des slogans très durs, hein, parce qu'il y avait une mère qui n'avait pas eu de place à la crèche, et elle avait lancé un slogan « j'ai pas eu de place à la crèche, mort au Japon ». Ce qui était très violent quand même, ça a fait beaucoup d'effets. Alors le problème au Japon, par rapport, si on voit le nombre de places en crèche, il n'est pas moins élevé qu'en France par exemple. Mais les familles ne recourent pas du tout aux nounous, voilà, aux gardes personnelles. Et donc c'est le système de garde est quand même très peu varié. Et donc, c'est complètement insuffisant. Ça, c'est vrai, du point de vue politique. Mais je pense que l'obstacle est plus fort encore dans le monde économique lui-même, puisque le nombre de femmes employées a augmenté. En 2012, il y avait déjà 68% de femmes qui travaillaient entre 15 ans et 64 ans. Mais avec cette courbe en M, hein, c'est-à-dire que pendant la période d'éducation des enfants, elles étaient beaucoup moins nombreuses. Et donc aujourd'hui, elles sont à 71%, donc ça a un petit peu augmenté. Pour celles qui sont en âge de travailler. Hein. Si on regarde les postes d'encadrement, ça a encore baissé relativement. Ça n'a pas baissé en chiffre absolu, mais par rapport aux autres pays qui font beaucoup d'efforts, ça a baissé. Donc il y a vraiment à la fois le monde politique qui garde quand même une vision traditionnelle de la famille, malgré tout, et le monde économique qui, lui, ne fait aucun effort. On peut dire, je pense qu'il ne fait aucun effort.
Vous restez avec nous, Christine Evie, je voudrais faire réagir Arnaud Griveaux sur ces politiques économiques à destination des femmes. Comment la jugez-vous, Arnaud Griveaux?
C'est vrai que c'est très difficile pour le gouvernement parce que se refuse, je dirais, à introduire des mesures coercitives, en fait. Donc, il fonctionne beaucoup par l'incitatif, des labels, des choses comme ça, pour inciter les entreprises à faire sienne un peu ces mesures-là. Et c'est vrai que c'est pas bête en soi de vouloir faire en sorte que les acteurs soient eux-mêmes d'accord avec cette volonté de promouvoir les femmes dans le milieu de l'entreprise. Mais disons qu'on est quand même dans une situation un peu d'urgence. Et le problème, c'est que les acteurs économiques ont tout un ensemble de contraintes. Et bon, la contrainte là de rajouter une contrainte parce qu'ils le perçoivent malgré tout quand même comme ça, hein, le fait de dire que plus de femmes, c'est de la diversité dans le management et c'est prouvé que les entreprises fonctionnent mieux. Bon, ça, je suis pas persuadé qu'il y ait beaucoup d'acteurs économiques au Japon qui en soient convaincus. Donc, au final, les femmes passent toujours, en second plan et effectivement
comme variable d'ajustement un peu sur le marché du travail.
Oui, c'est ça. Tout est en fait un peu enchevêtré et donc là les l'objectif des 30%, mais là c'est on y est mais absolument pas. Et d'ailleurs même moi je travaille sur justement la place des femmes dans l'administration, donc pour voir justement si déjà l'État lui-même fait en son sein les mesures qu'il demande au secteur privé
et
de faire. La réponse c'est que non. En tout cas il y a le discours, on essaie de créer comme ça des dynamiques par le biais des idées, mais concrètement, ça demanderait des investissements importants, ça demanderait de trancher un peu dans l'art quand même.
Hein. On a évoqué la question de la natalité avec un taux de natalité qui est le plus faible des pays développés, c'est 1,43 enfants par femme, c'est vraiment extrêmement faible, et c'est un vrai souci pour l'économie japonaise. Il y a une solution qui serait toute trouvée, c'est celle d'ouvrir les frontières. Par ailleurs, Shinzo Abe a pris un certain nombre de mesures précisément pour ouvrir les frontières et laisser les immigrés venir pour participer à l'effort national et pour développer l'économie du Japon. Sauf que ça se fait toujours de façon extrêmement d'abord mesurée et puis surtout on parle pas de migrants, on parle pas d'immigration, c'est totalement tabou. Ça va pas avec le nationalisme de Abe, ça.
Oui, non, c'est sûr. Là, disons que il met en avant justement plutôt le volet pragmatisme de sa politique en disant que finalement il n'y a pas le choix. Et c'est vrai que les chiffres tendent à montrer quand même qu'il y a effectivement peu de marge de manœuvre sur la question. Mais comme vous le dites, effectivement, c'est de l'immigration très choisie, quoi.
Merci beaucoup en tout cas à vous Christine Lévy d'avoir été avec nous par téléphone. Je rappelle que vous êtes maître de conférence à l'université Bordeaux-Montaigne. Vous avez dirigé notamment Genre et modernité au Japon qui était paru aux presses universitaires de Rennes en 2014. Alors outre le premier ministre japonais, il y a une autre figure qui a quand même une importance dans la vie politique nippone, c'est l'empereur et il se trouve qu'il y a un nouvel empereur qui arrive.
Comme l'empereur et l'impératrice, je souhaite être toujours proche du peuple japonais. Partager ses joies comme ses peines afin de remplir mon devoir de symbole de l'État.
Alors voilà, l'empereur Naruhito qui, après 30 ans et 5 mois, laisse sa place à son fils, abdique et laisse donc la place au prince héritier, Naruhito. Quel est justement son rôle? À quoi il sert? À quoi pourraient ressembler les relations entre le Premier ministre Abe et ce nouvel empereur? Surtout que vous allez le voir, il y a un certain nombre de dissemblances dans la vision qu'ils se font l'un et l'autre de la société japonaise. On va retrouver Caroline Postel-Vinet, qui est directrice de recherche à Sciences Po, spécialiste du Japon. Caroline Postel-Vinet, le 22 octobre prochain, le Japon va vivre une nouvelle cérémonie tout à fait officielle autour de son nouvel empereur. Naruhito est monté sur le trône, c'était en avril dernier. Et depuis, il y a un certain nombre d'événements symboliques qui se succèdent avec la semaine prochaine une nouvelle cérémonie de présentation. Vous nous dites un peu l'importance de cette future cérémonie?
Cette cérémonie, c'est la suite d'un long processus qui a commencé le 30 avril au soir, où le vieil empereur Akihito a passé le règne à son fils Naruhito. Et ensuite, une série d'événements vont marquer la longue prise de pouvoir de cet empereur tout au long de l'année. Et le 22 octobre est le seul moment où l'arrivée de l'empereur sur le trône est annoncée officiellement au monde entier. Donc c'est le moment où l'empereur s'adresse aux dignitaires du monde entier. Le gouvernement japonais a invité les 195 États membres des Nations Unies, à l'exception de la Syrie, avec laquelle le Japon ne compte pas avoir de relations en ce moment.
On sait qui a répondu présent. Alors, j'imagine évidemment que à peu près tout le monde va au moins envoyer des ministres, des ambassadeurs ou que sais-je encore, mais peut-être que tous les présidents, les chefs d'État, les chefs de gouvernement ne seront pas là. Lesquels seront là?
Ceux qui sont là de façon certaine, ce sont les têtes couronnées, c'est-à-dire les monarchies comme la Grande-Bretagne, le prince Charles, l'Espagne, le roi d'Espagne et toutes les têtes couronnées d'Europe, d'Asie, d'Afrique. Les présidents de la République, Donald Trump et Emmanuel Macron, s'étant déjà rendus au Japon à l'occasion du G20, ont eu une visite personnelle qui a été très bien relayée par les médias avec le nouvel empereur. Donc on sait déjà que Donald Trump va envoyer, de façon un peu surprenante, mais finalement on n'est jamais complètement surpris avec Donald Trump, sa ministre des Transports. Et à vrai dire, je n'ai pas connaissance de la personne qui représentera la France. Mais j'imagine pas le président Macron.
Alors, il y aura du monde, c'est ça que j'entends, et c'est bien normal, puisqu'il s'agit de la présentation du nouvel empereur au monde. Mais est-ce que pour autant, ça en fait un événement politique? Est-ce qu'on va aborder des sujets politiques, diplomatiques?
Le Premier ministre Abe a, on sait, déjà 50 rendez-vous prévus avec différents homologues à lui. Donc ce sont des rendez-vous tout à fait politiques. On sait que, en particulier, le président turc Erdogan a un rendez-vous avec le Premier ministre Abe, ainsi que le Premier ministre de Thaïlande. Un certain nombre de personnalités, donc les chefs d'État, ont rendez-vous. Et 50 rendez-vous politiques, ça fait beaucoup de politique. Mais par ailleurs, Naruhito, l'empereur lui-même, n'est pas censé avoir un rôle politique. Mais c'est toute l'ambiguïté de sa situation, c'est-à-dire qu'on voit bien que c'est un grand moment diplomatique pour le Japon néanmoins.
On sait bien, Caroline Postel-Vinet, que normalement l'empereur a un devoir de réserve et qu'il ne peut pas s'immiscer dans les affaires politiques. Il n'empêche que, à travers ses discours, il fait aussi de la politique. Naruhito, il est connu pour être plutôt un pacifiste, et on a pu d'ailleurs le mesurer lors de son premier discours du 15 août commémorant la fin du conflit et la capitulation du Japon, dans lequel il a beaucoup parlé de paix, au cours duquel il a redit, réexprimé ses profonds remords au nom du Japon. On sait que du côté de Abe, lui, on est plutôt sur un nationalisme qui s'appuie assez largement sur le passé de la guerre, sur la nostalgie militariste. Comment ces deux approches peuvent-elles cohabiter? Jusqu'où cet antagonisme entre la vision de l'empereur et du Premier ministre peut poser problème?
Je pense que pour pouvoir garder sa capacité de message, je pense que l'empereur Naruhito fera quand même attention à rester dans l'ordre du message codé. Mais c'était un message codé que tout le monde peut bien comprendre. Et effectivement, c'est intéressant, si vous voulez, Naruhito et Abe sont tous les deux les petits-fils d'acteurs importants de la guerre du Pacifique, de la Seconde Guerre mondiale, et ils ont des trajectoires extrêmement différentes. Abe est le petit-fils de Kishi et est finalement resté fidèle à une certaine mémoire nationaliste, tandis que
Naruhito, comme son père, ont été vraiment élevés dans l'esprit du nouveau Japon d'après 1945, qui était le Japon de la paix, le Japon qui a une constitution qui lui interdit de faire la guerre, etc. Et Naruhito, comme son père Akihito, ont toujours bien fait comprendre, à travers des messages plus ou moins subliminaux, leur attachement à la paix, à la constitution pacifiste et effectivement leurs regrets et leur conscience historique. Pour le moment, les choses ont toujours été contenues. On sait que la relation entre le père de Naruhito et le premier ministre Abe sont assez fraîches, je pense qu'il n'est pas dans l'intérêt de l'empereur de dépasser certaines bornes, en tout cas aujourd'hui, dans le contexte actuel, s'il ne veut pas avoir sa capacité d'apparaître en public, tout simplement réduite, parce que quand même, il y a un certain contrôle du politique sur les déplacements, etc., les déclarations de l'empereur.
Alors justement, c'est quoi ce contrôle du politique et par quoi ça passe? Alors je sais bien qu'il y a une agence, une institution qui s'appelle l'Agence impériale qui est là pour chapeauter un peu tout ça et pour à la fois mettre en place les règles, éventuellement parfois les faire évoluer, mais un tout petit peu. Concrètement, ce contrôle du politique sur l'empereur, ça passe par quoi?
Eh bien, ça passe très précisément par cette institution, l'Agence impériale, qui a un statut assez particulier, qui est de toute façon payé par l'État, donc avec un contrôle de l'État.
Mais est-ce que l'exécutif a la main sur cette agence? Je veux dire, est-ce que par exemple, s'il y a un sujet qui pose problème, l'exécutif, le gouvernement peut dire, par le truchement de cette agence impériale, là c'est la limite, il faut arrêter, enfin...
Oui, alors son premier pouvoir du gouvernement, c'est certaines nominations à l'intérieur de l'agence et aussi des moyens de pression sur certains membres de l'agence. Mais il faut savoir aussi qu'il y a des hauts fonctionnaires à l'intérieur de cette agence qui aussi, par tradition, conservateurs. Donc de toute façon, il y a toujours eu un certain hiatus, et notamment sur la question de la lignée masculine ou féminine de l'empereur, puisque l'empereur qui est maintenant au pouvoir a une fille et n'a pas réussi à produire un garçon. Donc là, de toute façon, l'agence impériale était très accrochée à l'idée qu'un empereur est forcément un homme.
Vous dites qu'il n'a pas réussi comme si c'était un malheur d'avoir une fille. C'est surtout que la pression était considérable sur le couple.
Oui, ça a été terrible. Et maintenant, celle qui est l'impératrice a énormément souffert de cette pression et... parce que elle, c'est une femme, j'allais dire normale, mais enfin, qui est tout à fait moderne et n'avait d'ailleurs pas très envie de devenir impératrice et qui est manifestement beaucoup plus en phase avec l'air du temps, enfin, et la reconnaissance du pouvoir des femmes.
Ouais, c'était une fille de diplomate qui a fait d'excellentes études, qui allait se lancer dans une carrière internationale probablement excellente et qui s'est arrêtée pour justement se donner totalement à cette fonction. Tout dernier point peut-être, la question de la modernisation, parce qu'on avait beaucoup insisté sur le fait que le père Akihito avait beaucoup modernisé la fonction d'empereur, en tout cas avait essayé. Quel bilan on peut faire de cette modernisation et est-ce que Naruhito aussi va pouvoir poursuivre cette entreprise de modernisation?
Je pense qu'il va essayer, oui. Je pense que c'est complètement... clairement, il a reçu l'éducation de ses parents et en plus, il a vécu avec ses parents, contrairement au précédent empereur qui vivait dans la maison impériale, mais pas en famille. Et donc, je pense que tous les signaux qu'il donne pour le moment, c'est qu'il va essayer. Et par ailleurs, Abe lui-même, en tout cas, s'il est encore Premier ministre dans les années qui viennent, ça c'est une autre question, mais je pense que le pouvoir politique japonais, même le plus conservateur, est quand même conscient aussi des attentes de la population japonaise. Et la population japonaise soutient un empereur dans ses évolutions et dans son effort de rapprochement avec le peuple, comme le père Akihito l'a beaucoup fait. Donc je pense qu'on ira dans ce sens-là et qu'il y aura des bras de fer, sans doute, avec l'agence impériale, etc., et les conservateurs, mais il y aura une évolution, je pense.
Bon, on étudiera ça de près. En tout cas, merci beaucoup Caroline Postel-Dipinel d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes directrice de recherche à Sciences Po. Arnaud Griveaux, peut-être un tout dernier mot, on arrive presque au terme de cette émission, pour évoquer l'après-Abe. Qu'est-ce qui va se passer une fois que Shinzo Abe, vous le disiez tout à l'heure en début d'émission, a priori 2021 c'est fini parce qu'il arrive à la fin de son troisième mandat, il ne pourra pas en faire un quatrième. Ça paraît très très compliqué. Qu'est-ce qui va se passer après? Il a un dauphin désigné?
Non, il n'y a pas de dauphin désigné, il y a des dauphins. Et il est possible que qu'effectivement il y ait de forts bras de fer qui vont se mettre à jour, disons, au sein du PLD. Il n'est pas du tout certain que les premiers ministres qui vont suivre vont être aussi forts que Shinzo Abe, justement parce que, disons que les cartes vont être rebattues. Il n'est pas du tout certain que celui qui va lui succéder sera dans la même lignée conservatrice. Donc c'est
beaucoup d'observateurs aujourd'hui au Japon parlent d'un homme qui vient d'être nommé ministre de l'Intérieur, qui est un tout jeune homme, il doit avoir 38 ans, je crois, Shinjiro Koizumi, qui est lui aussi un fils d'un ancien premier ministre.
Tout à fait, ouais.
Ça pourrait être le successeur de Shinzo Abe?
Dans l'immédiat, je pense pas quand même. Enfin, je dirais que tout est possible, mais ça me paraît quand même très compliqué disons, il en aura 40, du coup, un petit peu moins. Oui, c'est ça, 40 ans. Qu'à 40 ans, il devienne premier ministre, un Macron japonais, j'ai du mal à y croire parce que, disons que le parti, justement, il y a suffisamment de résistance dans le parti et de personnes, disons, qui ont attendu leur tour quand même pendant 7 ans,
hein, parce que faut quand même pas se laisser dépasser par un petit minot de 40
exactement,
ans. C'est ça que vous voulez dire?
C'est ça, c'est qu'il faut se dire quand même que dans l'imaginaire de tous ces hommes politiques, globalement, au bout de 2 ans, le premier ministre change. Donc là, ça fait quand même, ça va faire.
Et est-ce que malgré ça, est-ce qu'il est dans la veine nationaliste de Shinzo Abe et donc peut-être dans quelques années prendre la relève? Ça vous paraît?
Il pourrait, en tout cas, prendre la relève dans quelques années, puisque visiblement les dynasties politiques sont quand même extrêmement puissantes. Hein. Puis il est très jeune, il est très beau, donc finalement, on a vu que ça suffisait.
Il vient de se marier avec une femme très belle, qui est d'ailleurs franco-japonaise.
Tout à fait. Donc c'est un couple parfait. L'histoire est toute tracée en un sens. après, disons que voilà, c'est ça. Il n'a pas forcément un agenda politique très clair. Je pense qu'il va se contenter de paraître dynamique, réformateur, et puis effectivement c'est quelque chose qui peut porter, oui.
Merci infiniment Arnaud Griveaux de nous avoir accompagnés ce matin pour nous éclairer sur Shinzo Abe, cet homme fort du côté du Japon. On poursuivra notre série demain, il s'agira d'un autre homme fort, à savoir Narendra Modi, le Premier ministre indien. Merci infiniment, c'est avec ce titre choisi par Benjamin U. Hashimichi Muji de Ryukuku Underground qu'on se quitte. Alors on mettra la référence sur le site de Culture Monde, hein, Benjamin. Allez, l'heure de retrouver Brice Couturier, son tour du monde des idées.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
On parle de collapsologie avec vous. On a souvent dans l'idée que la collapsologie, c'est une théorie récente.
Oui, elle correspondrait, si vous voulez, à une prise de conscience inédite des limites des ressources disponibles sur la planète et du réchauffement climatique. Selon une représentation courante, à des générations aveuglément optimistes, parce qu'elles ont vécu des périodes de croissance forte et d'énergie bon marché, succéderait une nouvelle génération légitimement angoissés par l'état précisément dans lequel leurs aînés ont laissé la planète. Eh bien, il n'en est rien. Deux universitaires canadiens, Johanna Schurmack et Pierre Desrochers, ont donné sur le site Areo une analyse assez exhaustive des essais qui peuvent être à bon droit considérés comme ayant anticipé la vogue collapsologique actuelle. En fait, estime-t-il, la pensée occidentale a toujours comporté un courant éco-pessimiste, jugeant la prolifération démographique de l'humanité comme une menace pour la planète et par conséquent pour l'humanité elle-même. Alors, sans remonter jusqu'à l'Antiquité et à la conception cyclique de l'histoire, on constate ainsi que dès le XVIe siècle, de nombreux penseurs croyaient à une forme d'autorégulation tragique des sociétés humaines par les catastrophes. Machiavel lui-même estimait, je cite, que « lorsque la science et la méchanceté des hommes atteint son plus haut point, le monde se purge ordinairement par des inondations, des épidémies et des famines ». Et Giovanni Botero, l'un des grands rivaux catholiques de l'auteur du Prince, professait toujours au XVIe siècle que, je cite, « la grandeur des villes s'arrête au niveau qui lui permet d'être conservé le plus commodément ». Pour lui, le développement urbain devait buter nécessairement sur l'épuisement des ressources alimentaires fournies par les campagnes environnantes. Mais la théorie éco-pessimiste la plus cohérente est certainement celle qui a été professée par Malthus au début du XIXe siècle. Du fait de la croissance démographique, estimait cet économiste britannique, la population augmente de façon exponentielle, tandis que les ressources terrestres ne croissent que de façon arithmétique. Conclusion, à moins d'un rigoureux contrôle des naissances, l'humanité est condamnée à la famine. Dès ce moment malthusien, les quatre arguments de la pensée éco-pessimiste sont en place, estiment nos deux Canadiens, résumant dans cet article les arguments d'un livre qu'ils viennent de publier qui s'appelle « Population Bombed, Exploding the Link Between Overpopulation and Climate Change ». Ces continuateurs, disent-ils, ne feront que des mises à jour circonstancielles.
Et alors Brice, quels sont précisément ces quatre arguments?
Dans un monde fini, l'expansion démographique et économique indéfinie de l'humanité est irréaliste. 2. Toutes choses étant égales par ailleurs, seule une réduction de la population peut permettre d'améliorer les conditions de vie. 3. Dans un monde aux ressources naturelles limitées, la croissance économique ne peut devenir que de plus en plus coûteuse en énergie et dommageable pour l'environnement. 4. Les risques que présentent les technologies susceptibles d'accroître l'intensité de la production sont tels qu'il est préférable de vivre à l'intérieur de limites. Bref, il faut renoncer à la croissance ininterrompue. Ainsi, dans « Mankind at the Crossroads », un livre qui fut un best-seller en 1923, le généticien et botaniste américain Edward Murray East, professeur à Harvard, estimait qu'à la fin du XXe siècle, dans toutes les zones tempérées du globe, les terres agricoles connaîtraient des rendements décroissants, la nourriture deviendrait rare et chère, des conflits de la faim décimeraient l'humanité, elle prendrait d'ailleurs les formes, disait-il, de guerres d'extermination. Et 25 ans plus tard, en 1948, le paléontologue Henry Fairfield Osborne Jr., connu une gloire internationale grâce à un ouvrage traduit en français, c'est traduit sous le titre « La planète du pillage ». La dégradation continue de la nature va transformer la Terre en une planète aussi désolée que la Lune, estimait cet auteur. Il écrivait aussi « Les technologues auront beau se surpasser dans la création de substituts artificiels aux ressources naturelles, ils ne pourront pas compenser l'attaque contemporaine terrifiante sur les éléments naturels nourriciers ». Il avait tort. La révolution verte qui allait débuter quelques années plus tard sous ses yeux allait permettre, en croisant des centaines de souches de blé et en sélectionnant les variétés les plus résistantes, de quadrupler les rendements en 20 ans. 20 ans plus tard, en 1968, le livre de Paul Ehrlich, « La bombe P », allait se vendre à plus de 2 millions d'exemplaires. Best-seller, donc aucun effort pour accroître les capacités de la Terre ne peut rivaliser avec la croissance débridée de la population, écrivait ainsi Ehrlich, encore vénéré de nos jours comme un des fondateurs de la pensée écologiste. Et il prédisait qu'une effroyable famine mondiale allait décimer l'humanité dès les années 1980. Lui aussi, il avait tort. Nous sommes de plus en plus nombreux. Rappelons qu'on n'était qu'un milliard seulement en 1800 et que nous sommes plus de 7 milliards aujourd'hui. Nous mangeons de mieux en mieux et on va parler demain d'éco-optimisme.
Merci beaucoup, Brice Couturier. Un peu d'éco-optimisme, ce sera pour demain. Dans un très court instant, on retrouve Olivia Gesbert et La Grande Table.